Et nous commençons cet après-midi avec Anne-Marie Moulin, que je remercie beaucoup, qui est donc à l'UMR Sphère CNRS Université Paris-Sorbonne, et qui va présenter toute une série de travaux, disons, auxquels elle a consacré quelques temps de ses recherches sur la fin de la peste, enjeux biologiques et sociaux dans l'histoire, ce qui nous permettra aussi de poursuivre les discussions de ce matin sur les questions d'interdisciplinarité et d'historicité des objets biologiques. Donc, Anne-Marie, je vous laisse tout de suite la parole.
Bien, bah, bonjour à tous. Excusez-moi pour cette pause déjeuner qui nous a retardés. Je vais vous parler de la fin de la peste, un enjeu biologique et social dans l'histoire. Je considère que, comme médecin-philosophe, je m'intercale un peu entre les sciences sociales et les sciences biologiques. Donc j'ai essayé de montrer comment, quelque part, la collaboration peut permettre, pas forcément de répondre, mais au moins de poser des questions qui sont un peu oubliées dans le récit officiel que l'on fait des épidémies de peste passées et même présentes. Je pense que l'épidémie de Covid, et je l'ai vérifiée avec la présentation d'Étienne, je pense que l'épidémie de Covid a eu un réel impact sur la façon dont nous envisageons les questions posées par la peste noire, notamment par sa chronologie, son début bien sûr, mais aussi sa fin. Nous sommes actuellement obsédés par la fin de l'épidémie de Covid. Et nous nous demandons comment on va s'en sortir, comment elle va finir. Je pense que cette épidémie de Covid a eu aussi un impact sur la difficulté, même aujourd'hui, avec tous nos outils conceptuels et scientifiques, la difficulté que nous avons à appréhender le phénomène de contagion. Une fois qu'on a dit qu'une maladie est contagieuse, cela ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'elle se transmet. Et comment se transmet-elle ? Chacun d'entre nous l'imagine plus ou moins, avec ses propres outils. Et on voit bien que pourtant, de cette façon d'appréhender, de comprendre la contagion, découle le choix des mesures faites pour endiguer l'épidémie. Je m'en suis d'autant plus aperçue que, pendant 9 mois, j'ai participé à une mission d'expertise indépendante, officiellement, sur la gestion du Covid par le gouvernement. Cette mission avait pour but de faire une évaluation comparative de l'action du gouvernement français en la comparant à celle des autres pays. La réponse à la question « si nous avions bien fait » supposait que nous savons exactement ce qu'il faut faire pour interrompre la contagion. Et c'est là qu'on s'apercevait que nous avons encore aujourd'hui des outils très globaux et que nous n'entrons pas dans le détail des mesures précises qui peuvent arrêter la contagion. Comment savoir, par exemple, quel est l'impact du masque, des différentes mesures de distanciation sociale, la géographie, la distribution locale, etc. Tout cela, quelque part, nous échappe un peu. Le phénomène de la contagion reste à certains égards mystérieux, comme la disparition de la peste, et comme pour le moment, la disparition du Covid, qui est encore entourée d'un certain mystère. Je pense qu'une certaine humilité, quand on aborde la question de la peste, est de règle. J'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait Marilène Nicou à notre dernier séminaire l'année dernière, en octobre, où elle avait rappelé que c'est abusif de considérer comme nécessairement inutilisable et irrationnel les descriptions des médecins de la peste lors des épidémies médiévales. Et ces descriptions, quelque part, elles peuvent encore avoir un certain intérêt. On peut même presque, pourrait-on dire, y adhérer. Regardez par exemple ce texte du docteur Pestalozzi, notre confrère, en 1722. Si vous oubliez, vous remplacez venin ou levain par bactérie, un homme pestiféré a dans son sang un venin ou levain, ce levain s'exhale du corps du pestiféré, étant emporté par le souffle qui sort de son poumon, c'est plus ou moins ce qu'on peut dire aujourd'hui, se leva, se mêle à l'air ou s'attache à des habits qui sont proches de cet homme, d'autres hommes qui s'approchent d'assez près, à quelle distance, pour respirer un air commun, reçoivent en respirant le même air infecté, etc. Après tout, avec le français un peu démodé, c'est un texte auquel on pourrait aujourd'hui adhérer. Donc, toute épidémie a une fin. C'est ce que je disais souvent à mes voisins au début du Covid, ça a une fin. Nous aussi, on a une fin. Celle de Marseille, de 1720, a duré 2 ans, avec, il est vrai, une petite rechute qui, à l'époque, a beaucoup inquiété. Mais 2 questions demeurent. Pourquoi l'épidémie s'arrête-t-elle ? Et quelles sont les mesures qui déterminent ou hâtent-elles cette fin ? C'est une question qu'on peut encore poser aujourd'hui. Alors, pour comprendre la fin de l'épidémie, l'histoire, les sciences sociales et la biologie ont des réponses. Elles peuvent envisager différents mécanismes. Par exemple, la biologie. La biologie peut évidemment considérer la génétique. Alors là, tout à l'heure, j'ai cherché un peu à faire intervenir la génétique, mais c'est vrai que c'est assez difficile de penser qu'on peut d'ores et déjà savoir l'évolution de la génétique humaine. Je ne parle pas de celle des virus. Mais la génétique humaine, si nous avons effectivement des sélections de génotypes par la peste, par les épidémies, c'est une conséquence qui s'évalue à l'échelon des générations. Donc pour le moment, c'est assez difficile à envisager. Il n'y a pas d'évolution génétique de la population française saisie par le Covid. Les immunologistes ont probablement plus à dire dans l'immédiat, avec l'installation d'une immunité collective. L'épidémie de Covid-19, l'installation d'une immunité collective. Une immunité collective artificielle, c'est Philippe, je ne sais pas s'il est parmi nous, c'est Philippe Sansonetti qui a dit, qui a écrit, l'épidémie de Covid-19 ne se terminera que par la vaccination. Je ne sais pas s'il persiste et signe. D'où le projet de loi sur la vaccination obligatoire. Il y a un projet qui est en cours. Ce projet, pourtant, se heurte aux controverses qui, de tout temps, ont été liées, mais sont particulièrement actives en ce moment, sur le principe même de l'obligation et de la perte de liberté. Il y a, d'autre part, toutes les lacunes de nos connaissances sur la durée de l'immunité conférée par les vaccins et sa qualité face aux mutants. Donc, beaucoup d'interrogations auxquelles, théoriquement, il faudrait répondre si l'on veut vraiment obtenir une adhésion importante, autre que contrainte, à la vaccination. Et puis, il y a l'immunité naturelle. Vous savez bien que l'immunité naturelle, c'est-à-dire acquise spontanément pendant l'épidémie, au contact des malades infectés, c'était une stratégie qui avait été brièvement choisie par l'Angleterre, pas pour longtemps, puisque ça a été très rapidement abandonné. Et cette idée d'une immunité naturelle m'est revenue de façon un peu amusante, parce qu'il y a à peu près 1 an, il a été proposé une méthode d'immunisation presque naturelle, à savoir par les masques. Il y a eu 1 ou 2 papiers qui sont parus sur le fait que le virus pouvait, plus ou moins suivant la nature du masque, pénétrer à travers le masque et conférer un petit Covid qui serait immunisant. Ça n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme, mais cela, évidemment, pour moi, a évoqué quelque chose de très précis dans l'histoire de la vaccination, c'est la variolisation, c'est-à-dire l'utilisation d'une maladie naturelle en choisissant, il est vrai, des formes bénignes qui seraient moins dangereuses qu'une forme normale. En tout cas, cette idée de covisation à travers le masque, comme on avait parlé autrefois de variolisation, m'a un petit peu intéressée. Et puis, il y a l'évolution et les mutations de la bactérie. Alors ça, c'est une chose, l'atténuation des bactéries, c'est une chose qui est connue depuis longtemps. On discute beaucoup du fait, à la fin du 19e siècle, qu'à la fin de l'épidémie, les formes sont moins graves, comme si le germe s'atténuait spontanément. À l'époque, il faut bien se rappeler qu'à l'époque de Pasteur, on n'a pas la notion de gène, on n'a pas la notion de mutation, Donc on va raisonner en parlant d'atténuation. Et cette atténuation, bien sûr, elle a été orchestrée et mise en scène au laboratoire pasteurien. Vous connaissez toute la démarche pasteurienne d'exacerbation de la virulence par passage de la rage du matériau rabique, puisqu'il n'y a pas encore un isolement, à travers les animaux d'expérience, atteinte d'une période d'incubation fixe et ensuite atténuation progressive, d'où sort le principe de la vaccination pasteurienne contre la rage, pour laquelle vous voyez une image d'Épinal sur la photo. Et cette question du retour de la virulence, de l'atténuation de la virulence par passage successif sur un milieu donné ou à travers des animaux, ça a été le principe du BCG, bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose, expérimenté pour la première fois en 1921. Et vous savez qu'au procès de 1929, le procès dit de Lübeck, parce qu'à Lübeck, le BCG avait fait une centaine de victimes, a posé une question scientifique à laquelle la science de l'époque ne pouvait pas répondre. Est-ce que des bactéries atténuées, la tuberculose en l'occurrence, peuvent revenir en circulant à travers les personnes, peuvent retrouver sa virulence? C'était une question à laquelle il n'y avait pas de réponse. Et vous savez que le procès s'est terminé en incriminant un mélange des bacilles virulents tuberculeux et des bacilles du vaccin cultivés dans le même laboratoire. Évidemment, aujourd'hui, la biologie moléculaire aurait pu intervenir en nous donnant des renseignements. L'histoire propose, elle, une autre clé pour comprendre la fin de l'épidémie ou l'atténuation de l'épidémie, c'est l'action des hommes. Alors, l'action des hommes, c'est bien entendu la question des quarantaines et de l'isolement. C'est sûr qu'on peut se demander si la biologie va permettre de mieux comprendre les interruptions de la peste. Par exemple, on considère qu'après Marseille, dernière efflorescence de la peste en Europe en 1720, l'Europe a pu respirer et que par contre, cette accalmie n'a été observée dans l'Empire ottoman qu'après 1850. Alors, plus qu'à l'atténuation de la vengeance divine, qui est quand même souvent évoquée de temps en temps par les religieux, c'est au génie humain européen, occidental, point d'interrogation, des quarantaines qu'a été attribuée la grande pause qui n'a été interrompue que momentanément par la terrible peste de Marseille, la peste de Marseille de 1720. Mais précisément, cette peste terrible, qui a tué à peu près un tiers de la population de Marseille, a été constamment utilisée comme une démonstration a contrario de l'efficacité des quarantaines et des lazarets. En fait, la responsabilité de l'épidémie a été rejetée sur le capitaine du Grand Saint-Antoine et sur les échevins qui, malgré le fait que la patente du bateau était brute, ont finalement autorisé l'introduction des marchandises pour des raisons financières, l'immanence de la grande foire de Beaucaire et le fait que les échevins, en particulier les échevins de la ville, avaient des intérêts, comme on dirait aujourd'hui, dans les cargaisons et leurs ventes à la foire de Beaucaire. Alors, cette histoire, l'entrée des ballots dans la ville, on a maintenant des documents assez précis, on suit carrément, à partir de l'introduction de certaines marchandises, la diffusion de l'épidémie d'une maison à l'autre, jusque dans le centre-ville, etc. Il y a, dans la thèse de Fleur Beauvieux, qui est extrêmement détaillée et très précieuse, avec une base archivistique impressionnante, on suit l'épidémie de maison en maison. Donc la responsabilité, c'est le capitaine, ce sont les échevins, et quelque part, cela prouve, à contrario, que les quarantaines et le lazaret pour les personnes et pour les marchandises est une bonne chose, puisque ça permet d'arrêter l'épidémie. Le procès qui a été fait, d'ailleurs, après la fin de la peste, a incriminé clairement pour la postérité le capitaine et les échevins, même si ceux-ci avaient, paraît-il, eu une magnifique conduite pendant l'épidémie. Et d'ailleurs, cette peste de Marseille, elle s'est inscrite dans la mémoire des Marseillais à tel point que pendant des années, le Conseil de santé de Marseille a été extrêmement exigeant et méticuleux sur l'arrivée des bateaux. Pas question de refaire l'épisode de la peste de Marseille. Et ce qui est presque amusant, c'est le fait qu'alors que, comme je vais le dire maintenant, toute l'Europe commençait à basculer du côté des théories anti-contagionnistes, les gens de Marseille, eux, ils continuaient à persister sur les mesures anciennes de quarantaine. Et quand Louis-Philippe, au nom de la décision de l'atmosphère collective d'anticontagionnisme et d'encouragement de ce qu'on appelait la libre pratique, c'est-à-dire que le fait que les bateaux puissent circuler librement, vendre leurs marchandises immédiatement, sans ce délai terrible pour le commerce qu'était le confinement, quand Louis-Philippe a ordonné au Conseil de santé de Marseille d'abandonner ces pratiques désuètes, ils ont tous démissionné et finalement, leur décision a été acceptée par le gouvernement et le Conseil de santé, et ça c'est intéressant pour nous aujourd'hui, a été supprimé purement et simplement et remplacé par une administration supposée plus docile, une administration centralisée qui gouvernerait Marseille de Paris. Je vous laisse à penser qu'est-ce que ça évoque comme coïncidence avec l'actualité. Alors, finalement, le régime des lazarets et des quarantaines s'est vu unanimement attribuer la palme de la victoire. Et la palme de la victoire, c'était la victoire sur la peste, c'était aussi la victoire de l'Occident sur l'Orient, l'Orient d'où viennent toutes les épidémies, l'Orient fataliste musulman qui ne sait pas prendre la situation en main. En fait, d'abord, il faut dire que la peste ne s'est pas totalement arrêtée après 1720 en Europe. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques épisodes, en particulier en Russie. Mais enfin, il a été admis couramment que l'Occident avait arrêté la peste. La peste s'identifiait avec l'Orient et avec l'islam, d'autant plus qu'à l'époque, l'Empire ottoman est effectivement une puissance, et une puissance formidable, une puissance européenne. C'est cette simplification réductrice sur laquelle est revenu un certain nombre d'historiens, comme par exemple notre collègue Nurette Varlock, qui a participé l'année dernière en octobre. Nurette a contesté cette appréciation globale d'un Orient fataliste tenu en gros pour responsable de la permanence du péril épidémique. Vous remarquerez au passage que Venise, qui avec Raguse, Dubrovnik, a été la première ville, est considérée comme la première ville à avoir installé un lazaret, précisément Venise est considérée comme la porte de l'Orient et que Venise, bien entendu, a d'énormes relations avec l'Orient, qu'elle connaît d'ailleurs bien, puisqu'un grand nombre de livres sur l'Orient à l'époque étaient publiés par les éditeurs de Venise. Alors, Nurette Varlock a dénoncé ce que j'appellerais un orientalisme épidémiologique. J'emploie ce terme d'orientalisme au sens où l'a employé Edouard Saïd, qui, avec son livre « L'orientalisme », qui a eu un succès et une influence énorme, a dénoncé la mystification par les Occidentaux d'un Orient érotique et irrationnel, et j'ajouterais, pour le cas de la santé publique, d'un Orient paresseux et fataliste. Alors, cette vision doit être retravaillée, c'est une tâche pour l'avenir, je pense, de revoir l'histoire de la peste entre Orient et Occident. Alors, une des difficultés, j'y pensais ce matin en écoutant les conférences des biologistes, c'est le fait qu'il y a une inégalité de documentation. Cette inégalité, par exemple, je ne sais pas si combien on en est sur ces questions de génétique ou même d'archéologie funéraire, dans les rapports entre Orient et Occident. Mais c'est certainement quelque chose sur lequel il faudrait travailler pour que la documentation soit comparable et qu'elle soit aussi quantitativement un peu proche. Et en fait, on se heurte à ce problème de l'absence de sources. Et c'est là-dessus que les historiens, et en particulier Nurette, est revenu. sur cette question des sources. Alors d'abord, ils décrivent le martèlement qu'il y a eu sur le fatalisme musulman à travers les récits des voyageurs, en particulier de quelqu'un qui a été quasiment la source pendant des années de connaissances sur l'Orient, c'est Paul Ricoh, qui a écrit son État de l'Empire ottoman, qui a été une source pendant très longtemps, en 1667, tout de suite après la peste de Londres. Alors, il est admis en fait que depuis Soliman le Magnifique, à qui on prête régulièrement un propos du genre comme la peste arrive précisément au moment de la conquête de Constantinople, on demande à Soliman le Magnifique qu'est-ce qu'il va faire face à la peste, et il répond « je ne bougerai pas, je ne bouge pas de l'endroit où Dieu m'a mis, j'attends mon sort avec sérénité ». Et ce propos, qui a été recueilli par un contemporain, est ensuite répété à satiété par les générations successives et est considéré comme l'attitude typique du musulman face à l'épidémie. Il ne bouge pas. Et on renvoie pour cela au hadith de Omar pendant la peste byzantine, enfin la peste de Justinien. Et le hadith dit, c'est un dit du prophète, Omar, le calife, pose la question « Qu'est-ce qui se passe quand tu as la peste dans un pays ?» Alors il répond « Si la peste arrive dans le pays où tu es, tu ne bouges pas. Et si la peste arrive dans un pays où tu n'es pas, tu n'y entres pas. » Donc c'est une attitude qui est loin d'être une attitude passive et fataliste. C'est pourtant... c'est vrai qu'on a plusieurs fois eu des protestations des dirigeants du genre... où que je sois, la peste peut m'atteindre si Dieu en a décidé. Mais on peut considérer qu'il s'agit là d'une conformité officielle, inévitable, avec l'idéologie et la théologie officielle, et qu'elle est complètement contredite par la réalité. Par exemple, les sultans, quand la peste arrive, ils changent de logement. Les souverains, à l'époque, sont volontiers nomades. Ils ont évidemment des résidences un peu partout. Et ils se déplacent et ils entraînent avec eux un certain nombre de gens. Et il y a aussi des religieux qui se soucient de la contagion pour aller se mettre à l'abri. Comme toujours, il y a un réflexe et des possibilités différentes suivant la classe sociale. Mais Soliman et les sultans prennent garde de, en même temps, maintenir officiellement une image de courage et finalement de puissance formidable. Et c'est amusant de voir que Paul Ricoh, quand il n'accuse plus les sultans de fatalisme, quand ils s'aperçoivent qu'en fait, ils déménagent devant la peste, à ce moment-là, il les accuse de couardise. Il n'est jamais content. À cette occasion, je voudrais revenir donc sur la représentation de la contagion au XIVe siècle, qui est, chez les musulmans, qui est loin de correspondre à l'image donc, de fatalisme. D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a toujours eu au sein même de l'islam, une discussion entre les médecins. Par exemple, au XIVe siècle, avec la peste de Grenade, on a des discussions entre Ibn al-Khatib et Ibn Khatima au moment de la peste de Grenade. Et l'un est en faveur de la contagion et l'autre la nie. Et évidemment, il est pour une attitude attentiste. Mais le premier, en l'occurrence Ibn al-Khatib, il a des arguments frappants qui nous rappellent des choses. Par exemple, il constate qu'au moment de la peste de Grenade, les prisonniers qui étaient dans la prison, ils étaient bien gardés et bien entourés et aucun n'a succombé à la peste. Deuxièmement, il raconte une histoire d'une boucle d'oreille. Il y avait des fossoyeurs, on avait du mal, comme à Marseille en 1720, pour trouver des fossoyeurs, ce n'était pas un métier enviable, donc on devait payer les gens. Et de plus, ces gens se servaient eux-mêmes sur les cadavres qu'ils dépouillaient. Dépouillaient de leurs vêtements, dépouillaient de leurs bijoux, évidemment, etc. Les voleurs ne manquaient pas au moment des enterrements. Et d'ailleurs, j'ai constaté qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de trésor quand vous avez exploré les cimetières. Donc ça, c'est un élément important. Et la boucle d'oreille, Ibn al-Khatib raconte qu'il y a un fossoyeur qui a dérobé une boucle d'oreille qui appartenait à un pestiféré et il est mort de la peste. Donc c'est un argument pour une contagion médiée par un élément matériel. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est que les morts d'épidémie dans l'islam, pendant longtemps, ont été considérés comme des martyrs. Évidemment, c'est en rapport avec la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé qu'il meure de la peste, quelque part, le fait d'accepter son destin est une marque de sainteté et de pureté. Donc, pendant un certain temps, dans la littérature islamique, les morts de peste ont le statut de shahid, c'est-à-dire de témoin ou martyr. Mais je remarquerai qu'au moment de la peste de Justinien, on a exactement la même chose du côté des chrétiens, à savoir que mourir d'épidémie, c'est mourir martyr. Et comme tout martyr, on va directement au paradis, aussi à celui des chrétiens. Alors, la notion de martyr chez les chrétiens semble s'être atténuée plus vite que chez les musulmans. C'est aussi une autre conséquence dont j'avais envie de parler ce matin en vous écoutant sur les sépultures, c'est que normalement, les morts sont... Il y a tout un cérémonial pour la toilette funéraire, et cette toilette, elle est faite par quelqu'un qui gagne, qui a des bonnes actions, qui gagne des mérites en faisant ça, et ça suppose évidemment de déshabiller la personne, de la laver, etc. Donc c'est un comportement dangereux. Est-ce pour cette raison ou pour une autre raison théologique? Mais en fait, les chahides, les morts martyrs de l'épidémie, ne sont pas lavés, sont dispensés de ce traitement. C'est-à-dire que comme les chahides à la guerre, au djihad, qui sont tués, on ne les déshabille pas, on ne les nettoie pas, et on les met dans la terre directement tels qu'ils sont au moment où ils ont été tués. Et ça, c'est une chose d'ailleurs qui est toujours d'actualité. Et pourquoi ce traitement particulier? C'est parce que quelque part, le fait de la toilette funéraire indique qu'on fait la toilette d'un mort. Or, le shahid, il est déjà plus mort. Il est vivant, il est entré vivant, sans transition, au paradis. Donc c'est une des raisons théologiques qui explique pourquoi il n'y a pas de toilette du martyr. Mais en même temps, il est évident que quelque part en matière de peste, c'est une bonne chose de ne pas procéder à une toilette qui forcément expose celui qui l'a fait. Et d'ailleurs, dans l'Empire ottoman, on note que dans les documentations dont les historiens se sont emparés, qu'il n'y a pas apparemment de... Alors justement, ils se posent la question, est-ce qu'on continue à faire la toilette, etc. Et il n'y a pas vraiment de réponse. Ça serait intéressant de voir, par exemple, s'il y a eu des différences entre les communautés des différents millets, c'est-à-dire les minorités religieuses dans l'Empire ottoman, les juifs, les arméniens, les catholiques romains, etc. Comment l'enterrement se faisait, comment se faisait la toilette, ou elle ne se faisait pas, etc. Là, apparemment, on n'en sait rien, mais c'est certainement quelque chose qu'il faudrait vérifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive... On arrive au 19e, et au moment précisément où on accuse l'Empire ottoman de permettre la permanence de la peste en raison de sa désorganisation ou de son fatalisme, le contagionnisme est en train de subir des assauts. On commence à ne plus trop croire à la contagion. On a peut-être oublié la leçon des épidémies sur le sol d'Europe. C'est un paradoxe qui fait que quelque part, revient l'idée que c'est la peur qui engendre la contagion, et ça explique que Bonaparte en Orient, vous connaissez tous évidemment, là j'ai une gravure populaire pour compléter le fameux tableau de Gros, Bonaparte touche les pestiférés parce que peut-être il ne croit pas à la contagion, peut-être parce qu'il veut impressionner les populations par son calme et son humanité, et tandis que la peur, par définition, entraîne des modifications physiologiques. Alors là, on a énormément de témoignages dans la première partie du 19e siècle sur le fait que la peur, on dirait aujourd'hui le stress, est quelque chose qui va précipiter l'évolution de la maladie et faciliter la contagion. D'où le remède qui est une attitude rationnelle, énergique, calme, etc., qui contraste avec les populations qui, elles aussi, sont calmes, mais qui ne prennent aucune... précaution, puisqu'elle s'abandonne à Dieu. C'est la vertu de la tawakkud. Alors, dans cette accusation lancée à l'Empire ottoman et aux musulmans du fatalisme, alors, je voulais juste rappeler très brièvement que peut-on accuser vraiment de fatalisme une civilisation qui, par ailleurs, a produit l'inoculation de la variole, qui me paraît tout à fait anti-fataliste. Alors, c'était juste pour le plaisir de saluer au passage l'édème aigu qui rapporta l'inoculation de la variole de Constantinople, quelque chose par lequel elle entendait effectivement défier le fatalisme. Et d'ailleurs, vous savez que l'inoculation a été accueillie avec des applaudissements par les philosophes, en particulier par Voltaire. Alors, l'Orient est pourtant loin de rester inactif. Juste un rappel rapide qu'au moment où les anticontagionnistes dominent en Europe de plus en plus, le sultan réformiste Mahmoud II nomme Arsène Bullard organisateur du système quarantenaire et l'organise. Un autre souvenir, évidemment, avec le pacha d'Égypte, Mohamed Ali. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Mohamed Ali comprend très bien que ce sont les Européens qui dirigent le système des quarantaines sur son sol, et par conséquent, il essaye de changer la composition du conseil quarantenaire qui siège à Alexandrie, la photo là, et d'obtenir qu'ils maintiennent énergiquement les quarantaines. À ce moment-là, il y a une pesée terrible de l'Empire britannique, qui a la plus grande flotte du monde et pour qui les intérêts commerciaux interdisent la continuation des quarantaines qui compliquent considérablement le commerce. Alors, l'épidémie de peste à l'hôpital du Caire en 1835 va être l'occasion de médecins français au service de l'Égypte comme Clot, de montrer qu'il n'y a pas de contagion. Et pour le prouver, comme jadis Desgenettes à Acre avec Napoléon, il se fait inoculer le pus d'un bubon pesteux devant tout le monde pour prouver qu'il n'y a pas de contagion. Inutile de dire que maintenant, on dit « Oh ben, bubon pesteux, passé un certain moment, il n'y a plus des microbes de surinfection. » Donc, il ne risquait rien. Mais évidemment, il n'était pas très au courant. Juste un petit mot pour rappeler que les quarantaines ont continué à la Mecque parce que là, pour le coup, elles ont été maintenues par les puissances alors qu'elles démantelaient leur lazaret chez elles et que c'est Ibn Seoud qui, depuis 1930, protestait contre la mainmise des Occidentaux sur les lazarets, le lazaret d'El Tor pour les pèlerins de la Mecque et qui a, dans un geste qui rappelle tout à fait la nationalisation du canal de Suez, imposé l'Arabie saoudite comme seul contrôleur du pèlerinage. Je termine, donc c'était juste pour rappeler rapidement qu'il faudrait donc revenir du point de vue historique et si possible avec des arguments bactériologiques, biologiques et même peut-être génétiques sur cette question de l'efficacité des quarantaines et l'explication des bouffées de la peste et des intervalles autre que, bien sûr, l'épidémiologie des rongeurs et de leurs puces. Alors, je termine par cette évocation actuelle de la peste de Madagascar, qui me paraît intéressante parce que, sous nos yeux, elle permet justement de se poser des questions sur pourquoi la peste s'arrête-t-elle et pourquoi persiste-t-elle par bouffée dans un milieu où les rats et les hommes vivent en étroite contiguïté. C'est évidemment quelque chose qui est extrêmement important. Alors, pour finir, je dirais que les connaissances progressent, mais que nous avons toujours besoin de nous représenter les épidémies et de comprendre pourquoi elles surviennent et pourquoi elles finissent. Et je pense que, quelque part, nous avons toujours besoin de nous poser ces questions. La fin de la peste ou l'interruption de celle-ci nous ramène à l'histoire dont on saisit la continuité et elle nous renvoie aux lacunes de nos connaissances sur l'interaction vecteur-réservoir, hôte permanent et transitoire. Pour finir, je dirais que l'imagination humaine a toujours rempli ces lacunes en faisant appel à des thèmes comme par exemple les particularités ou les supériorités ethniques et nationales, à des boucs émissaires, etc. Mais c'est à la biologie de répondre par des considérations sur la génétique et sur l'immunité, et d'où la nécessité, plus que jamais, ça sera mon mot de la fin, de croiser les questions et les connaissances venues des sciences biologiques et des sciences sociales, la recherche sur les mécanismes biologiques et sociaux de la fin de la peste en est une illustration frappante. Je vous remercie.